La belle ses ondes.
La belle ses ondes.
C'est sur Radio La.
Radio La.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio La en ce jour le plus long de l'année. Je suis très heureuse de vous accueillir pour la suite de cette heure de belles ses ondes au pays de la programmation culturelle de Dieulfi Bourdeau. Une heure que nous allons égrener en très bonne compagnie puisque j'accueille ce matin le pasteur et président de la Société du Musée du Protestantisme Dauphinois, Bernard Croissant, à l'occasion d'une exposition que nous propose le musée justement du protestantisme dauphinois. Bonjour Bernard, bienvenue.
Bonjour Pauline et bonjour aux auditrices et aux auditeurs.
Alors l'exposition de cette saison qui s'inaugure vendredi retrace l'histoire d'un peuple des Hautes-Alpes qui pour échapper à la misère s'est exilé en Algérie entre 1881, c'est assez précis, et 1921 et ils ont fondé là-bas trois villages. Est-ce que vous pouvez, disons en introduction, nous raconter un tout petit peu l'histoire de ce peuple vaudois qui s'exile en Algérie?
Alors revenons d'abord sur l'histoire du peuple vaudois, comme on l'appelle. C'est pas parce qu'il habite le canton de Vaud, bien au contraire, il habite les hautes vallées des Hautes-Alpes, la vallée de Fraissinière, entre autres, et il tient son nom du créateur Pierre Valdo, créateur d'un mouvement évangélique qui est né au XIIe siècle à Lyon et qui a essaimé en Italie et dans ses hautes vallées.
Qu'est-ce qu'il avait de particulier, ce mouvement ?
Ce mouvement, eh bien, c'est un mouvement issu d'une prise de conscience donc, de ce riche marchand lyonnais, Pierre Valdo, qui a pris une conscience que l'Église de l'époque, sa hiérarchie, ne vivait pas selon les critères de l'Évangile. À commencer par la simplicité et la pauvreté. Alors Valdo a réalisé tous ses biens, il a doté sa femme, ses filles, et puis il est parti dans les campagnes, sur les chemins, avec des compagnons, et il distribuait des petits extraits d'évangiles. Ce mouvement, donc, est entré dans la réforme protestante en 1531, et le premier acte donné par cette entrée dans la réforme protestante, ça a été de financer la traduction en français de la Bible.
Mmh. Voilà. C'était la première traduction ?
C'est une des traductions.
D'accord.
Oui, oui. Il y avait donc une traduction faite à partir des textes originaux, c'est-à-dire l'hébreu et le grec. Mmh. Donc c'est la traduction de Olivetan, Olivetan étant le cousin de Jean Calvin, le réformateur. Donc c'est pas rien. Donc ce peuple a été longuement persécuté. Il a été au XIVe siècle appelé déjà une première colonisation entre guillemets du Luberon. Parce que le seigneur qui avait reçu cette terre en héritage avait bien senti qu'on l'avait floué parce que c'était une terre pleine de cailloux, etc. Et il a dit, je vais mettre cette terre en exploitation et elle va donner, ça va se développer. Et pour ça, j'ai besoin de gens sérieux. Et conscient de la réputation des Vaudois en termes d'honnêteté et d'ardeur au travail, il a fait venir des Vaudois, donc du Piémont d'Italie et des vallées vaudoises des Hautes-Alpes. Et effectivement, s'est développé tout un petit peuple dans le Luberon.
Donc c'est l'arrivée des Vaudois en Provence.
En Provence, voilà, et qui ont été décimés en 1535.
Alors
par
c'est ça, pourquoi,
François Ier.
Pourquoi on dit que ce sont les derniers Vaudois, là, ceux qui partent en Algérie?
Oui, alors les derniers Vaudois des Alpes françaises. Parce qu'il existe une église vaudoise en Italie, et puis d'ailleurs aussi parce qu'il y a eu des essaimages, donc au Brésil, en Argentine, vous avez des églises vaudoises. Par contre, en France, il n'y a pas d'église vaudoise. Les Vaudois sont entrés dans l'église protestante réformés de France.
C'est ça, ils font partie des fidèles, mais ils n'ont ils ont un culte un peu particulier, une façon d'être.
Non, pas de culte particulier, peut-être une façon d'être, oui, mais en tout cas, ils sont conscients de leur héritage, de leur héritage historique et spirituel et théologique.
Et alors, qu'est-ce qui se passe dans ce village de Dormillouse en 1881, Bernard?
Alors, il faut remonter d'abord à 1830.
C'est l'histoire.
C'est l'histoire. Donc, il faut remonter à 1830. D'abord, signalons que le village de Dormillouse, encore aujourd'hui, n'est pas accessible en voiture. On n'y vient qu'à pied ou avec des mulets. Il est situé à 1800 mètres d'altitude, donc dans le massif du Queyras. Donc, dans les années 1820-30, c'était vraiment un endroit complètement reculé, sauvage. Bêtes et gens vivaient dans les mêmes endroits, c'était très, très reculé. Et cette vallée de Fraissinière et le village de Dormillouse ont été spirituellement réveillés par un jeune genevois qui s'appelait Félix Neff. Donc il est venu prêcher le réveil spirituel, le retour à l'évangile, à la piété, à la prière. Et surtout, il a développé aussi le progrès agricole. Il a enseigné à bien irriguer les prairies, à bien planter les pommes de terre, etc. Et ça, il ne faisait pas que de lire la Bible, mais il lisait aussi la nature. Et ça entraînait donc un développement à tout point de vue, puisqu'il a aussi implanté dans ce village, donc qui est toujours inaccessible en voiture, à 1800 mètres d'altitude, dans le Queyras, il a construit un temple, il a construit une école, et surtout une école modèle, c'est-à-dire une école normale d'instituteurs et d'institutrices, comme on en a eu une derrière le temple à Diolfi. Donc, on a assisté à un fort développement de la population, mais plus la natalité augmentait, moins les terres pouvaient produire.
Ah, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'exposition documente les raisons pour lesquelles les villageois des Hautes-Alpes, donc de Dormillouse, décident de partir. Et ça parle de choses qui nous touchent aussi ici, c'est-à-dire de déboisement. Il n'y a plus aucun bois pour se chauffer, plus de chauffage possible et d'un seigle qui ne parvient plus à mûrir. Qu'est-ce qu'on sait des conditions de vie de là-bas? Et si on les compare à ici, est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence?
Alors, la différence, c'est surtout l'altitude. Diolfi, on est à 400 mètres. Là-bas, on est entre 1500 et 1800. Donc, la terre n'a pas du tout le même rapport. Ici, quand même, dans notre plaine du Jabron et du Roubion,
c'est beaucoup plus
on a de bonnes terres qui produisent bien. Et puis, le climat. Il faut savoir que dans ces altitudes, on est dans la neige et dans la glace pendant au moins 4 mois. On dit que quand il y avait des décès pendant l'hiver, on ne pouvait pas creuser la terre, donc on mettait les défunts dans leur cercueil, et le cercueil était déposé sur le toit de la maison.
En attendant.
En attendant, c'était comme un congélateur. Donc voilà les différences de conditions. Alors, quand même, il fallait sortir de cette situation, et c'est l'instituteur qui est originaire de Ventrolles, d'ailleurs, M. Niel, qui a entamé des discussions avec l'État français et un certain nombre d'organisations pour favoriser un exode, une colonisation.
Ils donc, organisent un exode.
Un exode, oui, c'est l'exode, c'est le titre même de l'exposition. Un exode vers l'Algérie, dont les terres avaient été prises par l'État français, et l'État français donnait donc des concessions à des chefs de famille.
Et pourquoi l'Algérie? C'est eux qui choisissent ou c'est l'État qui oriente pour aller installer plus de gens là-bas?
Non, c'était le mouvement de l'époque. On n'allait pas partir en Guyane, par exemple, où c'était le bagne. Non, c'était très proche, et puis c'était les mouvements de l'époque. La conquête, entre guillemets, de l'Afrique, donc entre autres l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique équatoriale, n'étaient pas encore commencées. Mmh. Donc c'était vraiment les premières colonisations. Et alors c'est le seul exemple d'une colonisation de type communautaire. Hein, je disais tout à l'heure que l'État donnait donc des concessions à des chefs de famille. Hein, là, c'est vraiment en communauté. Mmh. Les gens viennent en communauté, ensemble, et c'est comme ça qu'ils vont créer au fur et à mesure des années, jusqu'en 1921, donc trois villages.
Mais ils sont vraiment très modestes. Comment ils se rendent là-bas? Comment font-ils pour réaliser cet exode?
Alors, il y a des organisations. Hein, il y avait un comité qui se réunissait à Lyon, qui réunissait des fonds hein, pour donner des subsides, aujourd'hui on dirait des subventions, pour leur installation donc, en terre algérienne.
Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de savoir quel regard, de façon générale, disons la communauté protestante actuelle porte sur cette colonisation? Est-ce qu'il y en est question un peu dans l'exposition?
Alors, je ne répondrai pas directement par rapport à l'exposition.
Oui, non, mais...
Il faut que ça soit découvert. Mais aujourd'hui, donc... Faut dire que beaucoup de protestants hein, français ont été des pieds noirs. Hein, et on en retrouve encore aujourd'hui, hein, ils ont bien vieilli, et qui ont aussi cette nostalgie de ce pays dans lequel ils ont souffert hein, au cours des installations, etc., où ils ont beaucoup travaillé. Ils n'ont pas fait seulement travailler les autochtones, mais... Ils ont travaillé énormément. Ils ont eu un génie aussi, surtout dans le domaine de l'agriculture, le développement des cultures arboricoles, des fruits, la vigne, etc. Au passage, je mentionne que ça n'est pas la première colonisation. Ça remonte au XVIIe siècle, 1689, où des Vaudois, du Luberon entre autres, et puis des Huguenots, donc de notre région du Dauphiné, ont débarqué en Afrique du Sud. Et ils ont apporté la vigne et l'arboriculture. Les vins connus d'Afrique du Sud sont d'origine française, huguenote. Et il suffit de regarder parfois le nom des propriétaires pour savoir que, ah bah oui, ça ce sont des Français, hein, Monsieur Giraud, Monsieur Ménard... Monsieur Duplessis, pour savoir que ce sont d'origine française. Donc voilà, le travail accompli. Et nos coreligionnaires protestants, pieds noirs, étaient aussi en relation donc, avec des missions. Mmh. Hein, donc c'est une colonisation accompagnée par la mission. Mmh. Les missionnaires étaient à la fois au service de ces communautés protestantes, mais aussi étaient au service de la population, à savoir développement de l'hygiène, de la santé, de l'instruction. Mmh. Évidemment, c'était aussi à but d'évangélisation, donc, disons le mot, de prosélytisme, mais c'était vraiment dans une vision globale de l'être humain global qui a besoin de développer tout son être spirituel, sa foi, mais aussi son corps, son hygiène, son alimentation, son instruction. Voilà, c'est vraiment une caractéristique hein, de la présence des protestants aussi en Algérie. Mmh. Il y avait une présence de travailleurs, pas tant de colonisateurs, mais de travailleurs, pour le développement local.
Mais les deux sont quand même forcément liés au regard de l'histoire.
Mais c'est lié. Et il faut voir aussi qu'au regard de l'histoire, en général, ce sont d'abord les évangélisateurs qui sont arrivés, d'ailleurs bien souvent britanniques, et ensuite c'est l'armée qui a suivi et qui n'a pas eu du tout, évidemment, la même attitude que les évangélisateurs. Mais voilà, c'est effectivement leur processus.
Et les protestants sont souvent aussi des exilés, en fait.
On est habitué. Les protestants français, parce que les autres protestants en Europe ne subissaient pas de persécution, sauf évidemment les vaudois d'Italie. Hein, entre vaudois d'Italie et protestants français, là, on a la même solidarité dans la persécution.
Alors, il y a eu plusieurs vagues d'émigration sur place, donc, de 1881 jusqu'en 1925-26, et il y a à peu près 100 ans. Est-ce qu'on sait combien de personnes sont allées trouver, a priori, une vie meilleure là-bas en Algérie ?
Alors là, vous me surprenez, je n'ai pas pris des chiffres avec moi.
C'est des centaines de personnes ? Ce sont des petits villages ?
Oui, ce sont des petits villages qui n'atteignaient pas, le millier de personnes. Oui.
Et l'exposition termine en 1926,
oui.
Lorsque les derniers colons sont définitivement installés.
Allez, oui.
Est-ce qu'ils ont réussi à trouver la vie qu'ils cherchaient et qu'est-ce qui reste de ces villages aujourd'hui en Algérie ?
Alors, les villages, il leur reste leur nom, hein, évidemment, Trois Marabouts, etc. Et il reste un souvenir. Peut-être encore des exploitations agricoles, mais c'est surtout le souvenir. Et on rencontre encore aujourd'hui bien des familles qui sont ici en France métropolitaine.
Ils sont de ce fait rentrés à la Libération.
En 1962, à l'indépendance de l'Algérie. Très peu ont pu revenir. On connaît les circonstances.
Dramatique,
c'est malheureux. Et on espère toujours pouvoir pratiquer un accueil réciproque, une réconciliation, parce que je le sais par certains témoignages personnels, que beaucoup d'avoir des très anciens maintenant sur place, algériens, encore vraiment le regret de l'époque où ils étaient employés et soutenus. C'était pas seulement employés, mais soutenus donc par ces pieds noirs protestants.
Je vous propose, Bernard Croissant, de continuer à échanger sur cette exposition d'ici quelques minutes, le temps de nous rafraîchir un petit peu les oreilles, car il fait effectivement chaud dans ce studio, avec Renaud Garcia-Fons et Jean-Louis Matinier, et le morceau « Rue Vaux ». Vous êtes à l'écoute de Radio La, la radio du pays de Diolfi Bourdeaux sur le 106.6 FM à Diolfi et sur le web partout ailleurs. Je suis avec Bernard Croissant, pasteur et président du musée du protestantisme dauphinois. Et nous parlons de l'exposition qui va s'ouvrir, enfin non, qui va s'inaugurer plutôt ce vendredi 23 juin à 17h30. Ce sera le vernissage de l'exposition qui sera suivi d'une conférence donnée par Philippe Massé, qui est commissaire de l'exposition. Comment fait-on, Bernard Croissant, pour justement fabriquer une exposition comme celle-ci? De quels fonds proviennent les sources? Et comment on fait pour les articuler? Est-ce que vous avez pu suivre un peu ça avec Pierre Massé?
Philippe Massé, oui.
Philippe Massé, pardon.
Oui, 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 bien sûr. Philippe Massé, donc... a des origines dans la vallée de Fressinière, donc tout près de d'Ormillouse. Il est le neveu de Mademoiselle Niel. Alors c'est une autorité qui a été institutrice dans la vallée. Et c'est elle qui a conservé toutes les archives, les courriers échangés entre Alexandre Niel, donc l'instituteur organisateur de cet exode, et Philippe Massé, donc il y a déjà bien des années, m'avait contacté et m'avait montré toute cette liasse d'archives qu'il a d'ailleurs exploitée. C'est comme ça, c'est à partir de l'exploitation de ces archives, de ces correspondances, qu'il a d'abord écrit un livre qu'il a appelé « Nul ne retourne en arrière », édité aux éditions Ampelos. Et puis, avec quand même toute une équipe, il a créé une association à cet effet. Donc il a créé cette exposition qui est très conséquente parce que nous n'avons au musée que la première partie, celle qui concerne l'exode. Par contre, il a aussi donc mis en exposition, c'est le deuxième volet, tout ce qui concerne la représentation romantique de d'Ormillouse par des peintres du 19e siècle, en particulier des peintres britanniques. Et puis... d'Ormillouse. D'Ormillouse, à l'heure actuelle, avec ses habitants, qui sont en particulier des personnes très originales. Il y a des artistes, des penseurs, etc., qui sont installés dans le village de d'Ormillouse. Donc, cette exposition donc, des trois volets, l'exposition complète sera installée au temple de Diolfi, place Châteaurat, du 15 juillet au 15 août.
Au 15 août. Voilà. Donc vous pourrez voir les trois pans de
l'exposition. Là, on pourra voir l'expo tout entière.
Dont le retour à d'Ormillouse, le village s'est repeuplé.
C'est, garder sa population, etc. Voilà. Oui, donc aujourd'hui, l'école est occupée par des artistes où il y a un foyer. Donc, il y a Force Photo qui représente aussi cet endroit un peu mythique qu'est le village de d'Ormillouse.
Le musée du protestantisme dauphinois est géré par une association, loi 1901, dont vous êtes président, Bernard Croissant. Qu'est-ce qui a donné envie à son conseil d'administration de faire venir cette exposition?
En fait, l'exposition, comme je le disais il y a un instant, s'est élaborée en collaboration entre le musée et l'équipe. Et puis surtout, l'équipe créatrice a décidé de dissoudre cette association, qui était simplement éphémère pour la durée de la construction de l'expo, et a demandé au musée
d'être
le dépositaire, et donc d'être un peu de recevoir ce qui reste de cette association. Et du coup, Philippe Massé et puis un autre membre de cette association sont maintenant administrateurs du musée au conseil d'administration.
Un petit mot peut-être sur ce musée, si vous le voulez bien, Bernard Croissant. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire, le musée c'est l'un des rares temples, c'était un temple actif à ne pas avoir été détruit à la révocation de l'édit de Nantes. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
D'accord, bien sûr. Donc, il faut savoir que le vieux village, le village de la Commanderie, donc, est passé à 90% à la réforme, avec en tête le châtelain. Hein, le châtelain étant le régisseur du domaine des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. On a célébré le culte donc dans la chapelle Saint-Jean, donc la chapelle du château, qui était la chapelle privée du châtelain. Mais un des effets pervers de l'édit de Nantes, donc 1598, c'est que les protestants devaient restituer tous les biens qu'ils occupaient et qui appartenaient aux catholiques. Donc du coup, il a fallu trouver un lieu de culte. Et les protestants sont venus célébrer le culte dans la maison commune, donc, c'est-à-dire la mairie de l'époque. Donc le bâtiment fonctionnait en mairie pendant la semaine, et le dimanche, c'était le temple. Si bien que quand les démolisseurs sont venus pour détruire, elle dit, vous ne touchez pas la mairie. Mmh. Et le bâtiment a servi à continuer à exister en tant que mairie, y compris pendant la Révolution, jusqu'en 1807. Et c'est qu'en 1807, par décret impérial, que le bâtiment est devenu temple.
Et il n'y a que trois temples, hein, c'est ça qui n'ont
trois
pas...
Trois temples qui ont subsisté. Il y en a encore... Bon, j'en connais quatre quand même. Moi, il y en a un aussi dans la région de Marseille. Parce qu'en fait, ces temples avaient été confisqués, bien avant la révocation, avaient été confisqués pour en faire des églises catholiques. Voilà, donc les deux autres se trouvent en Cévennes.
Quels sont les principaux objets du patrimoine protestant dans la collection permanente qu'on va pouvoir trouver au musée?
Alors, essentiellement, évidemment, des Bibles, hein, des exemplaires de la Bible, des exemplaires des psautiers, c'est-à-dire ces livres de psaumes, donc les psaumes étant des prières bibliques, que depuis l'origine de l'Église, on chante au cours des offices. La Réforme a simplement fait traduire, entre autres par Clément Marot et d'autres poètes, Théodore de Bèze, en français de l'époque, donc fait traduire les paroles, et puis les a mis en musique, non pas sur des musiques du type grégorien, comme on les chantait à l'époque, mais sur la musique du siècle. Mmh. Et voilà, c'est comme si aujourd'hui, d'ailleurs ça se fait, hein, on chante.
Oui, bien sûr.
D'ailleurs, une petite anecdote concernant Dormius. Donc, je vous ai parlé de Félix Neff qui a réveillé cette vallée. Donc, il aura appris à chanter. Il avait une vielle à roue, qui est d'ailleurs exposée au musée. Et évidemment, les gens ne savaient pas chanter, ils ne connaissaient pas de chansons. On était vraiment dans une contrée vraiment reculée, coupée de la civilisation. Il y avait simplement deux gars qui avaient fait la guerre avec Napoléon, et ils connaissaient une seule chanson, la Marseillaise. Eh bien, Félix Neff a composé des cantiques sur l'air de la Marseillaise. Sur l'air de la Marseillaise, il a posé des paroles spirituelles, des prières. Voilà, et c'est ainsi qu'il a développé le chant aussi à Dormius. Donc voilà, et puis il y a dans notre musée, alors je vous ai parlé de psautiers, il y a une curiosité, c'est qu'on expose un tout petit psautier, minuscule, qu'on appelle un psautier de chignon, hein, que les femmes pouvaient cacher dans leur abondante chevelure, enfermée dans des bonnets. Et puis, on évoque aussi dans nos vitrines la chronologie de l'histoire du protestantisme jusqu'à Adulfi, la dernière guerre avec le sauvetage d'abord des républicains espagnols et des juifs.
Bernard Croissant, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Merci d'être venu nous rendre visite. On rappelle donc que l'exposition est visible au Musée du protestantisme dauphinois à Poitlaval jusqu'à la Toussaint, c'est ça ?
Tout à fait.
Ce vendredi 23 juin, c'est le vernissage.
Oui.
Ça, c'est 17h30. À 18h, une conférence de Philippe Massé, qui, on l'a compris, est le commissaire de l'exposition et a collaboré avec vous pour la construire. À noter aussi que du 15 juillet au 15 août, un autre pan de cette exposition sera visible et on pourra l'apprécier au temple de la Dieu-Fi. Place Châteaura, temple de Dieulfi. Retour à Dormillouze. Eh bien, voilà. Vendredi, temps de convivialité, un petit pot d'amitié quand même. On en a
toujours, bien sûr. C'est l'évidence même. Permettez-moi simplement de préciser un peu les horaires d'ouverture. Du musée. Donc, à partir du premier, le musée est ouvert tous les jours, les après-midi, de 15h à 18h30, et en juillet, août, aussi le matin, de 9h30 à midi, sauf le dimanche matin et le lundi matin.
Et si vous êtes curieux, rendez-vous aussi sur le site du musée du protestantisme dauphinois, tout entaché comme ça, trèsfacile.com, car vous y trouverez aussi deux fois par mois une petite histoire écrite
des
temples protestants du Dauphiné. C'est une saga que je suis un petit peu.
Ah, c'est très bien.
Voilà, vous pouvez télécharger des documents écrits par Gilles Bergeos,
notre secrétaire général.
Exactement. On se retrouve juste après une pause musicale pour égrener cette fois-ci les festivités qui vous seront offertes pour ce solstice du 21 juin aux allures de fête de la musique. On se retrouve tout de suite sur Radio-là. Merci beaucoup Bernard Croissant et à bientôt.
Merci à vous et bonne journée à tous nos auditeurs. Bonne fête de la musique. Days, hate
It's just my way to say I understand. For now she's bound for a love she never found. Yes, now she's bound for the shores of England. Yes, now she's bound for the shore.